Salut, je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste passionnée par la bouffe, l'humain et le sport. C'est d'ailleurs ces différentes passions, ma curiosité et mon désir de dire les vraies affaires qui m'ont amené à lancer le podcast il y a maintenant 2 ans de ça. Au quotidien, je gagne ma vie grâce à la consultation privée, aux conférences et à la création de contenu en nutrition, évidemment. C'est pour cette raison que j'ai la chance de toujours être connectée avec ma communauté et donc de pouvoir baser mon contenu sur vos besoins réels. Dans cette 3e saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je vais répondre à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seule au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à van-nutritionniste ou au daigle-vanessa à commercial-dénutrition.com. À bientôt! Bon matin à toi! J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je parle d'un sujet fort sexy dont j'ai envie d'en jaser depuis longtemps. En fait, si tu me suis depuis le début, je sais que j'ai dit à plusieurs reprises que j'allais jaser de ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, je t'annonce que je parle de constipation aujourd'hui. J'en profite pour te faire un petit update là, sur moi, mon quotidien, qu'est-ce que je fais. Vous allez voir, il y a un lien avec le sujet. En fait, depuis le début de l'été, j'ai joint l'équipe à Andréane Martin. Donc, on est venu me recruter pour me proposer de faire quelques heures de clinique au sein de cette clientèle qui est spécifique en santé digestive. Donc, l'équipe Andréane se spécialise là, dans la santé digestive par le microbiote notamment, là, qui est une de ses spécialités. Je l'ai d'ailleurs reçu à un moment sur mon podcast là, pour venir en jaser. Et donc, tous les épisodes que je vais faire en lien avec la santé digestive vont avoir été travaillés de pair avec Andréane et son équipe. C'est le cas pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour s'assurer que je n'oublie rien et que je vous partage un max d'informations pertinentes. Alors, je commence. J'ai donc 10 recommandations en lien avec la fameuse constipation. Première recommandation, là, je le sais que tu le sais, mais on va essayer d'approfondir un petit peu plus le sujet. Donc, première chose à penser quand on pense constipation, c'est évidemment les fibres. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais la majorité des Québécois, des Canadiens n'atteignent pas là, les valeurs cibles en termes de consommation de fibres. Les fibres, ça nous vient d'où? En fait, ça nous vient principalement des végétaux, donc tout ce qui va être noix et graines, fruits et légumes, les légumineuses notamment. Pour les femmes, en fait, la cible qu'on souhaiterait voir en termes de fibres, c'est 25 grammes par jour et pour les hommes, c'est 38 grammes. Je sais que ça ne dit absolument rien quand je te donne des chiffres comme ça, mais dans le fond, l'idée, c'est de juste toujours en mettre plus. Ça, c'est les chiffres actuels, mais la littérature plus actuelle là, nous permet de déterminer que même chez certains individus, parce qu'il y a quand même une tolérance, là, il faut trouver notre propre tolérance, mais d'aller jusqu'à 50 grammes de fibres par jour, ça serait favorable. Puis là, je pense, non, j'allais aller trop loin, je m'en allais dans un autre point, je vais rester focus sur mes fibres. Fait qu'il y a quelque chose que c'est pas tout le monde qui sait, c'est qu'il y a 2 types de fibres, c'est les fibres solubles, puis les fibres insolubles. Les fibres insolubles, là, j'aime bien l'illustrer un peu comme si c'était des petits bouts de bois. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres, notamment, là, c'est jamais digéré par le système digestif humain, ce qui fait en sorte que ça se ramasse dans notre côlon. Donc, les fibres insolubles, c'est comme si c'était des petits bouts de bois là, qui allaient émettre un genre de pression mécanique, finalement, puis qui pouvaient aider le contenu de notre système digestif à descendre vers le bas. Au niveau des fibres solubles, la manière la plus... que j'aime vraiment l'illustrer, en fait, c'est la manière d'un pudding de chia. Donc, le chia, c'est une excellente fibre soluble. Puis, si vous la mettez dans l'eau, la graine de chia, elle va finir par former un genre de gel qui va permettre de préparer le fameux pudding de chia. Donc, si vous avez en tête un peu le pudding de chia, dites-vous que les fibres solubles, quand ça rentre en contact avec le milieu aqueux qui est votre intestin, ça donne un genre de gel. Donc, dans les 2 cas, d'avoir une combinaison insoluble-soluble, on trouve la constipation, c'est optimal. Cependant, qui dit fibre, dit eau. Car ta fameuse préparation soluble, si tu ne bois pas assez d'eau, ça peut faire l'effet inverse et comme jamais, pour parler en bon français. Au niveau des fibres insolubles, donc, on les retrouve où? On les retrouve principalement dans les céréales et le son de blé, donc tout ce qui est grains entiers, les fruits et légumes, les noix et graines et les légumineuses. Du côté des fibres solubles, on a le fameux psyllium qui se retrouve notamment dans les All Bran Buds. Donc, les All Bran, il y a deux types d'All Bran. Il y a les petits bâtons, puis il y a les petites boules. Les buds, c'est les petites boules. Donc, ça, c'est riche en psyllium. Ça va avoir pour effet notamment d'augmenter le volume des selles. La réaction au psyllium est très partagée. Il y a certaines personnes chez qui ça ne fera pas du tout, ça va occasionner des gaz, mais bien souvent, c'est justement quand la dose de psyllium n'est pas adéquate ou la dose d'eau n'est pas adéquate, ce qui fait en sorte que, comme je vous disais tout à l'heure, au lieu d'accélérer le transit, ça fait l'effet inverse, ça le ralentit et là, il y a fermentation à cause du psyllium. On le retrouve aussi, les fibres solubles, dans l'avoine, vraiment, dans les légumineuses. Donc, les légumineuses contiennent les deux. Dans les fruits qui sont riches en pectine, donc la pomme, l'orange, le pamplemousse, la fraise, la poire, dans certains légumes et dans les graines de lin et de chia. Donc, voilà pour ça. Première astuce, penser fibres et boire de l'eau. Donc, boire de l'eau, c'était mon numéro 2, évidemment. C'est sûr que si, par exemple, vous avez l'impression d'avoir des selles qui ressemblent à des petites crottes de lapin, c'est parce que clairement, c'est desséché à l'intérieur de tout ça. Donc, pensez à augmenter votre consommation d'eau. Puis là, quand on parle de consommation d'eau, là, je vous dirais qu'on pense à peu près à un 2 litres d'eau par jour, mais quand on parle d'eau, ça peut être n'importe quoi qui est liquide, hein? Tu sais, ça peut être des tisanes, un smoothie qui serait très, qui est riche en eau finalement, là. Ça fonctionne aussi, les soupes, dans les fruits et légumes, il y a beaucoup d'eau aussi. Puis, la littérature ne permet pas de démontrer que de prendre une tasse d'eau chaude le matin peut aider. Cela dit, on constate parfois en clinique une belle amélioration quand que les clients se mettent à prendre une tasse d'eau chaude le matin. Donc, comme il n'y a pas nécessairement de méfaits ou d'effets secondaires à prendre une tasse d'eau chaude le matin, c'est vraiment quelque chose qui peut être essayé aussi. On est rendu au numéro 3. Numéro 3, c'est de consommer des laxatifs naturels. Parmi les laxatifs naturels, on pense notamment à nos big, big, big winners de fruits et légumes qui se retrouvent comme étant les plus riches en fibres et le fameux pruneau. Donc, on a tous déjà entendu parler de l'effet laxatif des pruneaux, mais ce n'est pas un mythe. Donc, les pruneaux ou le jus de pruneau peuvent vraiment avoir un effet laxatif naturel qui soit intéressant. Puis, quand je parle d'effet laxatif naturel, là, c'est pas on prend ça puis vite on court à la toilette, là. C'est beaucoup plus modéré. Évidemment, on peut doser aussi la quantité dont on va prendre. C'est d'apprendre à se connaître puis d'apprendre à voir c'est quelle combinaison pour nous qui est optimale. Puis, pendant que je dis ça, t'sais, je pense que c'est important que je vous mentionne de ne pas intégrer toutes les stratégies en même temps. Premièrement, pour porter attention à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Dans le fond, si la situation est améliorée, est-ce que c'est parce que j'ai juste augmenté les fibres, de l'hydratation? Fait que des fois, de commencer une chose à la fois pour voir l'effet et progresser tranquillement, ça l'aide. Aussi, parce qu'on ne veut pas aller trop loin, puis créer l'effet inverse aussi, parce qu'on a juste comme trop fait de choses pour améliorer la situation. Je poursuis avec mes laxatifs naturels. Donc, pruneau, jus de pruneau, rhubarbe, les kiwis qui ont démontré de manière scientifique un effet sur le transit, les fameuses graines de lin et le café, oui, a vraiment un effet laxatif. Ensuite, envisager des suppléments de fibres. Par supplément de fibres, on peut penser notamment au fameux psyllium. Donc, le psyllium, je vous disais qu'on le retrouvait dans les céréales All Bran Buds. C'est aussi le psyllium qui se retrouve dans le fameux Metamucil. Donc, on peut le consommer sous différentes formes. C'est-à-dire que, oui, on peut aller chercher dans les céréales, dans le Metamucil, mais on peut tout simplement acheter des fibres de psyllium dans un magasin de santé naturelle ou en pharmacie. Et on peut même acheter du psyllium en capsule. Puis, si vous l'achetez en capsule, dites-vous que c'est pas un médicament, hein, c'est pas un produit de santé naturelle. Tu sais, dans le fond, vous n'avez pas à vous sentir mal d'ajuster ça là, à vos habitudes. Il n'y aura pas de méfait ou d'effet secondaire, sauf si, évidemment, ça ne convient pas au niveau transit. Là. Mais des fois, on n'aime pas prendre des pilules, là, mais en fait, c'est juste le format pilule, parfois, il peut convenir parce que d'ajouter de la poudre de psyllium ici et là, des fois, on manque un peu de créativité, là, dépendamment à quoi ressemble notre alimentation. Cela dit, au déjeuner, ça se fait quand même assez bien. Si, par exemple, vous mangez du yogourt, si vous mangez du cryo, vous pouvez en ajouter, par exemple, dans une petite compote de fruits. Donc, c'est une belle manière de l'intégrer. Il faut y aller progressivement avec ça. Fait que commencer avec peut-être une cuillère à thé première semaine le matin, avec beaucoup d'eau, évidemment. Si on voit une amélioration, mais c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite, passer à deux cuillères à thé la semaine suivante, évaluer votre confort, est-ce qu'il y a des ballonnements? Vraiment, là, soyez à l'affût de la progression et de l'effet que ça fait pour vous. Ensuite, les fameux probiotiques. Donc, je suis rendue au numéro 5. Les probiotiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande variabilité individuelle dans la réponse aux probiotiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment certaines personnes qui vont voir des effets favorables, puis il y en a d'autres chez qui ça ne changera pas grand-chose. La littérature est très partagée là, sur le sujet aussi, probablement en raison de cette fameuse variabilité-là. Si vous souhaitez vous tourner vers les probiotiques, essayez s'il y a quelque chose qui fonctionne bien. Donc, il y a le guide clinique des produits probiotiques disponible au Canada que vous pouvez retrouver sur le web. Donc, c'est probioticchart.ca qui va vous permettre de démontrer, en fait, pour traiter votre situation, lequel serait le plus pertinent. Parce qu'il y a certaines souches de bactéries. En fait, les probiotiques, là, c'est vraiment, pour l'expliquer un peu, là, c'est vraiment des bactéries qui ont été mises sous capsule, qui ont pour objectif d'aller coloniser votre côlon. Donc, c'est des bactéries qui sont saines. Puis, il y a certaines familles de bactéries qui vont avoir des effets favorables sur la régulation du transit. Donc, qui va limiter là, les effets de la constipation. Alors, si vous souffrez seulement de constipation chronique versus si vous avez un syndrome de l'intestin irritable, ça peut être une souche, qui sont un petit peu différentes. Faites le test, identifiez si ça vous permet de vous sentir mieux ou pas. Comme je vous le dis encore une fois, testez-le pas en même temps que les autres stratégies parce que vous ne serez pas en mesure de déterminer si c'est le probiotique qui aide ou si c'est l'augmentation des fibres ou le fait que vous buvez plus d'eau. Par contre, faut quand même considérer le fait que les suppléments de probiotiques, c'est quelque chose qui peut être dispendieux puisque ça se doit d'être pris de manière quotidienne pour avoir une efficacité. Fait qu'avec le prix des aliments qui est en hausse et le prix de bien des affaires qui est en hausse, ça serait peut-être pas la première stratégie que je vous recommanderais là, si vous voulez faire attention un petit peu au budget. Numéro 6 maintenant, donc pratiquer de l'activité physique. Donc ça, c'est clair que ça permet d'avoir une amélioration au niveau du transit, notamment, j'oserais dire, les sports de contact. Donc les sports qui ont un contact avec le sol, comme tout ce qui peut avoir effet de brasser un peu l'abdomen, ou tout ce qui peut permettre d'apaiser une pression au niveau de l'abdomen, comme le yoga par contre. Mais la pratique régulière de toute façon d'activité physique, que ce soit juste la marche, pas juste, pourquoi j'ai dit juste, que ce soit la marche, le vélo, les sports de combat, peu importe, donc essayez de faire de l'activité physique. De toute façon, vous savez comme moi qu'il y a mille et un bienfaits. Numéro 7, envisager un supplément de magnésium. Et oui, la littérature permet de démontrer qu'il peut y avoir un effet favorable entre la consommation d'un supplément de magnésium et le transit, particulièrement si on se tourne vers les sels de magnésium comme le citrate de magnésium. Comment ça fonctionne? En fait, c'est vraiment l'effet osmotique du magnésium qui va avoir pour effet d'attirer l'eau vers votre système digestif et donc de favoriser un format de sel qui soit plus propice à un transit régulier. Encore une fois, c'est une stratégie que vous pouvez essayer. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez tout le monde, puis essayez de l'essayer de manière isolée, tout comme les stratégies précédentes. Vérifiez vos suppléments actuels. Donc, il y a certaines formes de suppléments, il y a certaines médications qui peuvent avoir un effet sur la constipation. L'idée, ce n'est pas de tout mettre aux poubelles, absolument pas, mais de peut-être se questionner si, en fait, c'est la résultante de certains comprimés qu'on peut prendre. Par exemple, les fameux suppléments de fer qui sont réputés pour la constipation. Il y a certains suppléments de calcium aussi. Fait que des fois, juste de changer la forme des suppléments qu'on consomme, ça pourrait avoir un effet qui serait plus favorable sur la constipation. Donc, si c'est le cas, peut-être faire un petit check-up de qu'est-ce que vous avez comme supplément, médication, puis tout, puis d'adresser peut-être la situation à votre pharmacien, à savoir s'il y en a qui sont réputés pour augmenter la constipation. Et si c'est le cas, puis tu sais, encore là, je dirais, commencez peut-être par voir s'il y a d'autres stratégies en amont qui peuvent fonctionner pour améliorer la constipation. Puis si vous voyez que vous n'avez pas de résultat, bien peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau des suppléments pour changer les différentes formes puis améliorer la situation. Numéro 9 maintenant. Donc, ça va assez rondement aujourd'hui. On va vraiment parler de choses plus mécaniques, mais n'ignorez pas l'envie d'aller à la selle et positionnez-vous adéquatement. Évidemment, il y a quand même des contextes qui ne sont pas favorables pour aller à la selle lorsqu'on en ressent l'envie. Par contre, de manière optimale, il faudrait vraiment y aller au moment où elle se présente. Je sais que des fois, ça peut être gênant dans certains contextes, mais c'est sûr que ça peut faire une différence au niveau du transit. Donc, je pense que c'est un avantage du télétravail si vous avez la chance de pouvoir vous rendre à la salle de bain au moment où c'est souhaité. Positionnez-vous adéquatement. Et oui, on parle de positionnement sur la toilette. En fait, il existe des genres de petits bancs. Il existe vraiment des bancs, mais en fait, ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, les petits bancs, moi, j'ai ça dans ma cuisine parce que je mesure 5 pieds, 5 pieds 1 peut-être. Fait que j'ai toujours un petit banc sur lequel je peux monter pour aller chercher les éléments qui sont sur des tablettes plus élevées dans les armoires. Bien, ce genre de petit banc-là, vous pourriez le mettre au pied de votre toilette, finalement, puis positionner vos pieds sur ce petit banc-là pour élever en fait vos jambes, puis créer un genre de U avec votre bassin. Donc, comme ça permet vraiment de positionner le côlon en direction de l'anus pour vraiment bien déféquer. Ça peut sembler anodin, mais pour certaines personnes qui ont vraiment des problèmes de constipation, parce que des fois, ça peut être vraiment au niveau du positionnement que ça bloque. Donc, dans certains cas, ça peut effectivement faire une différence. Donc, pourquoi pas l'essayer? Et finalement, numéro 10, pensée holistique. Donc, pensée 360. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière globale pour améliorer le transit? Vous pouvez intégrer certaines pratiques de yoga. J'en ai parlé un petit peu précédemment là, quand je parlais de l'activité physique. Mais le yoga, en fait, il y a certaines techniques qui permettent de tout simplement apaiser une pression au niveau de l'abdomen, de faire comme un massage. Puis, ça peut vraiment aider au niveau du transit. Si vous avez un bébé ou si vous êtes maman, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà essayé avec votre enfant qui souffrait de constipation, d'essayer de lui faire un massage au niveau de l'abdomen. Eh bien, sachez que c'est toujours pertinent, même quand on est un petit peu plus âgé. Finalement, il y a la fameuse respiration diaphragmatique qui démontre des effets, oui, sur la constipation, mais sur de nombreux troubles digestifs. Donc, la respiration diaphragmatique, en fait, c'est vraiment une technique de respiration. Là, je vous invite à googler pour avoir toute l'information complète, mais c'est vraiment une technique de respiration qui nous amène à respirer avec l'abdomen au complet, puis à vraiment gonfler le ventre, puis de sentir finalement le diaphragme là, qui se retrouve juste en dessous des poumons, qui fait vraiment l'action de monter, descendre, et encore là, c'est la fameuse action du diaphragme, la pression finalement qu'elle peut effectuer, qui peut avoir un effet favorable sur la constipation. Ça peut aussi vraiment améliorer la situation en cas de RGO, de reflux gastro-œsophagien, pardonnez-moi mon slang de nutritionniste. Ça peut être aussi tout simplement de faire un genre comme un coucher sur le dos, de faire le vélo avec vos jambes. Finalement, on en revient à l'effet de pression là, au niveau du système digestif pour aider le mouvement vers le bas. Et finalement, en dehors de ces 10 conseils-là, peut-être essayer de penser finalement, comme je disais tantôt, est-ce que c'est vraiment un trouble de constipation chronique qui est isolé, puis il n'y a pas d'autres pathologies connexes, ou Ça peut être lié à autre chose, genre un trouble de la motilité, donc un système digestif qui serait paresseux, disons-le comme ça, donc qui aurait trop peu de stimulation pour faire avancer le contenu de votre intestin. Est-ce que ça peut être relié à un syndrome de l'intestin irritable? Est-ce que ce serait un SIBO, donc peut-être relié à nos bactéries qui produisent trop de méthane? Donc, si c'est des... Si, bien de vous pousser plein de points d'interrogation en tête lorsque j'ai parlé de ces pathologies-là. Je vous invite à revenir précédemment dans certains épisodes là, des saisons 1 et 2 où j'ai parlé de ces problèmes là, fonctionnels au niveau des troubles digestifs. Donc, je crois que ça fait le tour concernant la constipation. Grosso modo, là, je vous dirais, la première chose à mettre en place, ça serait définitivement d'augmenter vos apports en fibres. Puis, par rapport à ça, ce que j'ai à dire, là, c'est arrêter d'avoir peur des glucides. Parce que les fibres, c'est clairement, c'est des glucides, en fait. Les fibres se trouvent exclusivement dans les glucides. Donc, il ne faut pas avoir peur des glucides. Je pense qu'il faut juste les choisir adéquatement, de manière générale. Évidemment, il n'y a pas d'aliments interdits. À chaque fois que je m'en vais, à chaque fois que je dis des choses comme ça, j'ai l'impression d'être sur un terrain glissant, là. Mais les choisir adéquatement, c'est-à-dire favoriser les grains entiers la majorité du temps, les fruits, les légumes. Les fruits, là, t'en manges pas trop, là. Il y a tellement de clients qui pensent qu'ils mangent trop de fruits parce que c'est sucré, là. À moins que tu manges 15 portions de fruits par jour et que tu manges juste ça, là, empêche-toi pas de manger des fruits, sérieux, là. Puis les fruits, d'ailleurs, les baies, là, qui sont d'excellents petits fruits, sont très riches en fibres, en antioxydants, donc, et souvent très peu sucrés aussi. Donc, arrête d'avoir peur des glucides, intègre aussi des protéines végétales. Donc, si tu fais juste 50% de ta viande, mettons, avec une protéine végétale, déjà là, tu intègres tellement plus de fibres dans ton alimentation. Puis, fais de la place aux noix et graines dans ton menu. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique semaine et je te reviens la semaine prochaine avec une réponse à une autre question nutrition. Bonne semaine! Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!